Le masque et la plume. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue en public, et quel public, au Théâtre de l'Alliance Française, pour un masque et la plume consacré à l'actualité dramatique et néanmoins théâtrale avec nos deux Fabiennes nationales, Fabienne Pasco de Télérama, Fabienne Darge du Monde, ainsi qu'Armélita Armelio du quotidien du médecin, et Jacques Nerson de l'Obs. On ira ce soir boire du vin chaud au cabaret de l'exil de Bartabas. On va revisiter deux grands classiques, Tartuffe de Molière et Le Roi Lear de Shakespeare. Retrouver Nils Arestrup et François Berléand dans 88 fois l'infini. Richard Anconina dans Coupable. Et écouter Le bruit des loups avec le magicien Étienne Saglio. Seul regret que vous partagez, je sais, avec moi, les critiques, n'avoir pu assister avant l'enregistrement de cette émission au nouveau spectacle d'Ariane Nouchkine, L'île d'or, puisque ça n'était pas encore ouvert à la presse. Dans le courrier de la semaine, à propos des démons de Dostoïevski montés à la Comédie Française par Guy Cassir, Vanessa Dunas de Paris partage l'avis d'Armel. Comment peut-on encenser un théâtre où les acteurs se tournent le dos, nous tournent le dos, ne jouent pas ensemble, on ne s'y prendrait pas autrement pour tuer ce qui fait le théâtre. Déçu aussi, Michael de Paris, la vidéo omniprésente empêche les comédiens de jouer ensemble au propre comme au figuré. Un léger décalage entre le son et l'image a fini de me convaincre que je n'étais plus au théâtre. La troupe est pour moi pourtant au summum de son art, mais cette vidéo digne d'un concert d'une pop star me fait peur. Aucune émotion ne naît des démons, ajoute Antoine Blanc. La forme plan-plan se perd dans une forme propre et sans âme russe. Seul Pierre Cusor salut parmi nos auditeurs ces démons. 2h30 sans entracte, c'est à la limite du supportable pour les genoux, mais la beauté du spectacle, la force de Dominique Blanc et d'Hervé Pierre, la très belle mise en scène de Guy Cassir valent les courbatures. Sinon, Fabienne Pasco, à propos de J'habite ici de Jean-Michel Ribes, au rond-point que vous avez ardemment défendu, nos auditeurs sont sans pitié. Nous n'avons pas ri, certaines scènes étaient gênantes, nous étions mal à l'aise pour le propos et les acteurs qui souvent étaient bons, nous écrivent Diego et Julie de Levallois-Perret et Marie-Jo Perpignan. J'ai vu J'habite ici, je suis provincial, de passage à Paris, et je suis désolé d'avoir donné 28 euros pour ce spectacle long, vulgaire, et je n'ai pas ri une seule fois, la salle non plus. Pour Philippe Couteas, cette pièce est totalement vide, sans esprit, sans humour et entièrement faite de clichés dépassés. Heureusement pour Fabienne Pasco. Philippe Chavernac partage son avis sur la pièce de Jean-Michel Ribes, un spectacle court, bien rythmé et une pléiade d'acteurs excellents. On prend beaucoup de plaisir et après cette période épidémique, ça fait du bien. Donc il y a au moins Philippe Chavernac qui est...
Vive Philippe Chavernac, voilà, hein. Je le retrouverai au Théâtre de l'Atelier pour le prochain spectacle de Jean-Michel Ribes.
Je me demande si ce n'est pas un cousin d'ailleurs de...
Cousin du Berry.
Pas
du tout.
Bon. De Jean-Michel, cousin de Jean-Michel.
Et pour parler de cinéma, je vous invite, chers auditeurs, chères auditrices, comme chaque année, à voter pour le prix annuel, pour votre prix annuel des auditeurs du Masque et la Plume. Vous nous adressez, s'il vous plaît, sur le site du Masque et la Plume, à la page Réagir, le film français et le film étranger que vous avez préféré au cours de l'année 2021. Et vous avez jusqu'au 20 décembre. J'oubliais quand même de dire, à propos d'une vie allemande dans le courrier, joué par Judith Mack, vous savez, aux poches Montparnasse, qu'un auditeur, Thomas Hems, réfute l'affirmation d'Armel selon laquelle Brunhilde Popzel, une des secrétaires de Goebbels, aurait été détenue, comme vous l'avez dit, Armel, à Auschwitz après 1945. C'est faux, elle a été incarcérée, effectivement, dans trois camps qui n'étaient pas des camps d'extermination, et elle n'a donc pas pu y prendre la douche dans le lieu même des chambres à gaz.
Voilà. C'est elle qui le dit dans le texte. C'est dans, oui, l'interview, c'est dans l'interview qui a servi à Christopher Hampton à faire le livre. C'est pour ça que je l'ai cité et que ça m'avait glacé le sang. Mais il a sans doute raison, ce monsieur. Je pense qu'en plus, elle était légèrement affabulatrice.
Ce qui est possible.
Elle avait, ouais. moins, elle avait 95 ans. Moi,
elle avait dépassé presque les 100 ans à ce moment-là, oui. Donc on peut estimer aussi que sa mémoire était imprécise.
Bon, allez, on commence avec les classiques, si vous voulez bien. On ne présente plus Tartuffe ou L'Imposteur, comédie en 5 actes de Molière. Et pourtant, on va encore le faire. Ce faux dévot prend possession de l'esprit et de la maison du crédule Orgon. Toute sa famille, jusqu'à la servante Dorine, suspecte Tartuffe d'être un imposteur vénal. Mais le bonhomme est un fin stratège et Orgon un pigeon. Alors, Macha Makaïef monte la pièce dans son théâtre de la Criée à Marseille, avec Xavier Gallet en Tartuffe, Arthur Igual et Vincent Winterhalter en alternance dans le rôle d'Orgon, Nassima Bektaoui en Marianne, Irina Solano en Dorine, j'en oublie, pièce dont évidemment Macha Makaïef, comme tous les metteurs en scène ou metteuses en scène de Tartuffe, s'applique à rappeler combien elle est d'actualité. Donc c'est à la Criée, je le disais, jusqu'au 26 novembre, avant une longue tournée à travers la France. Ce sera du 1er au 18 décembre au Bouffes du Nord, et puis l'année prochaine à Nice, Angers, Villeurbanne, Toulon, notamment. Ce Tartuffe à la Criée, Fabienne Darche, qu'en avez-vous pensé ?
Oui, alors effectivement, des Tartuffes, ces dernières années, on en a quand même vu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je dis ça en préambule, peut-être pour commencer à exprimer ma déception.
Dont un très bon avec Michel Escaut.
Pour moi, c'était pas forcément le meilleur qu'on ait vu ces dernières années, mais à côté de celui de Macha Makaïef, c'était quand même voilà. Bon, mais on n'est pas là pour parler de celui-là, mais là, oui, c'est une déception. C'est vrai que, alors, le spectacle est tout frais, hein, il vient d'être créé, il est peut-être encore un peu fragile, mais c'est vrai qu'on a l'impression que moi, j'ai pas du tout vu ce que Macha Makaïef voulait dire ou faire avec Tartuffe, parce que quand on prend un classique français aussi partagé, aussi partageable, c'est quand même qu'on a a priori envie de dire quelque chose avec, sans que ce soit tordre la pièce ou quoi que ce soit. Mais là, en tout cas, on ne voit pas. Et je trouve que Macha Makaïef, qui ces dernières années avait signé des spectacles assez formidables, retombe un petit peu dans ce qui était il y a quelques années précédentes, un petit peu sa tendance, où c'est vraiment le visuel qui prime. Alors visuellement, c'est très beau, le décor.
C'est une plasticienne à l'origine.
C'est vraiment un spectacle de plasticienne, mais ces dernières années, elle avait dépassé ça. Il y avait aussi une lecture des pièces, et elle avait signé un autre Molière, le Trissotin ou les Femmes Savantes, qui était formidable, très drôle.
Moi, j'avais trouvé... C'était très drôle.
Très fin, très drôle,
toujours
très
dans
vif,
les années 50.
Très burlesque. Là, c'est comme si c'était un double de ce Trissotin, mais moins la lecture de la pièce. C'est-à-dire, le décor est superbe, le décor années 60 est vraiment aux petits oignons, dans les moindres détails, les costumes aussi, etc. Mais au bout de 3-4 minutes à peine, on a compris qu'il n'y avait pas de lecture, et il y a surtout des problèmes de distribution et d'inégalité entre les acteurs. On ne comprend pas qui est son Tartuffe, qui est joué par Xavier Gallet, qui est un bon comédien, et même un très bon comédien. Mais là, on ne sait pas qui est Tartuffe, il est complètement lunaire. C'est une sorte de chef de secte, mais avec des corbeaux noirs. Pour le coup, on se croirait chez Bartabas, mais moins la pertinence des corbeaux. Enfin, je vois pas où on est, quoi.
Jacques.
J'ai rarement eu une impression de fausse route à ce point-là. C'est-à-dire que je crois que toutes les indications...
Faut dire qu'on était à la générale, hein,
spectacle... Oui, mais je crois que les indications... franchement, les indications que donne Macha Makaïef, ça n'a rien à voir avec la fraîcheur du spectacle, parce qu'elles vont pas changer. C'est sa lecture de la pièce. C'est autant d'erreurs. Tout ce qu'elle demande aux comédiens va à contresens. Par exemple, elle fait un choix que je trouve grotesque, qui est que Dorine n'est plus une servante. C'est une aventurière.
De la famille.
C'est une aventurière. Oui, mais alors,
c'est un rôle très important.
C'est un rôle très important. Alors, ça retire quelque chose de, et que ça retire quelque chose d'important, c'est l'insolence qu'elle a vis-à-vis de son maître. Mais si elle n'est plus une servante, tout le comique et le courage de Dorine disparaissent.
Oui, mais ça veut dire que les maîtres ont abdiqué face à leurs domestiques.
Ça veut dire qu'elle a voulu faire original
et
qu'elle
s'est.
Ça veut dire qu'elle se trompe. Son propos.
Bon, il y a Madame Pernel qui, de temps en temps, se met à chanter, on ne sait pas pourquoi, parce que c'est une actrice cantatrice. Ça vous fait rire, tant mieux. et puis, par exemple, Laurent, le serviteur de Tartuffe, assiste à un moment donné à une scène qui est absolument intime, puisque Tartuffe est avec Elmire et ils sont supposés être seuls et il veut absolument qu'on ne sache rien de ça. Et ne serait-ce que pour la pudeur d'Elmire, c'est d'une sottise totale de faire entrer Laurent à ce moment-là. Mais les contresens comme ceux-là, il y en a plein, il n'y a que ça. J'ai rarement vu une absence de réelle mise en scène, de compréhension
en fait,
de la
pièce. C'est le Molière du contresens, si je comprends bien.
Ah, oui. Non, mais la vérité, c'est que moi, je pense que Macha Makaïev n'est pas un metteur en scène ou une metteuse en scène. Non, c'est une décoratrice et... Pour moi, je suis désolé, ça n'est que ça.
Elle a fait des mises en scène formidables. La dernière était pas formidable. Non, moi, c'est sûr que ce n'est pas son meilleur spectacle, c'est pas son préféré. Moi, je comprends déjà pas très bien pourquoi cette allusion à Pasolini, parce que le spectacle s'appelle Théorème Tartuffe. Alors, on connaît tous
enfin,
le film.
Ils l'ont retiré en même temps ce titre. Ils l'ont mis puis retiré.
C'est sur le dossier de presse, c'est sur l'affiche. Tous les documents portent Théorème. Alors que Tartuffe séduise toute la famille comme l'ange exterminateur. Bah, pas du film famille, de Pasolini, non. Beaucoup quand même, le mari et la femme. Parce que là, ce qui est intéressant, c'est quand même, il séduit l'épouse aussi, qu'il embrasse. Donc, on voit cette famille en déréliction, cette famille bourgeoise de l'après-guerre. Alors, c'est peut-être ça aussi, les années 50, 60, une France qui se reconstruit après la guerre et donc qui a versé dans la mélancolie et qui se laisse prendre au piège de cet imposteur. Mais moi, ce que je reproche à Macha Makaïev, c'est qu'elle part dans trop de directions. On a cité Nosferatu,
on a cité
Pasolini, elle voudrait faire un thriller, et peut-être que Tartuffe est un espion, un agent secret, on le voit qu'il fouille partout. Elle ne se fait pas confiance. Et moi, je crois que c'est aussi dû à toute cette période du Covid où les artistes ont été un peu livrés à eux-mêmes.
Ce pauvre virus n'est quand même pas responsable du manque de talent de Macha Makaïev.
Elle a un talent, Jacques.
Non,
vous ne pouvez pas dire
beaucoup,
ça de manière
de mise en scène.
Arrêtez,
non,
elle
non,
a dirigé déjà
pas.
Son théâtre de la Criée à merveille, elle a du talent, elle a fait quantité de spectacles magnifiques.
Je ne parle pas de sa direction du théâtre, je parle de sa mise en scène.
Là,
son avis, s'il vous plaît,
oui,
Armel.
Mon avis, moi j'admire beaucoup Fabienne Pascaud qui voit une analyse sociologique de l'après-guerre en France. Parce que je pense
pourquoi
qu'il y a
ça se passe en 50-60?
Mais parce qu'elle est dans cette mode.
Elle
est née dans cette époque-là, déjà, peut-être.
Oui, mais...
Mais non, il y a un sens.
Mais non, il n'y a aucun sens, Fabienne. Franchement, très sincèrement, je ne pense pas.
Je ne pense pas qu'elle fasse ça sans sens.
Peut-être qu'elle a enlevé la Tartuffe...
Théorème
Tartuffe. C'est pourtant encore sur les affiches de la Criée le soir où nous y étions.
C'est idiot, ça.
Et c'est vraiment tellement
bécasson.
Parce qu'évidemment, il y a un homme qui rentre dans une famille et qui séduit. Bon, ok, mais elle ne le traite pas du tout, ça. Il n'y a aucune trace de cette pensée-là, si c'en
mais
est
si,
une.
Puisqu'Elmire est séduite. Elmire est séduite par Tartuffe.
Non,
elle
c'est
succombe.
Bien pire que ça. Et j'ai lu les notes d'intention de Macha Makaïev. Elle pense que les femmes vont séduire, elles, Tartuffe. C'est-à-dire que ce n'est pas Tartuffe qui s'attaque à elle, c'est elle, cette femme frustrée, se donne complètement à Tartuffe. Enfin,
c'est des
contresens.
Donc, allez, ce Tartuffe marseillais, vous avez jusqu'au 26 novembre pour aller le savourer. Mise en scène par Macha Makaïev, parisien, c'est à partir du 1er décembre jusqu'au 18 au Bouffe du Nord. Voilà, l'autre classique, c'est le Roi Lear de Shakespeare, adapté et mise en scène par Georges Lavaudan, une production du Théâtre de la Ville, hors les murs, qui se donne au Théâtre de la Porte Saint-Martin, avec Jacques Weber dans le rôle-titre, mais aussi François Martouret, Gloucester, Astrid Ba, Frédéric Bory, Thomas Durand, Babacar Mbaye Fall, qui joue Kent, Laurent Papeau, Bénédicte Guilbert, Thibaut Vincent. Je ne peux pas citer tout le monde, mais je peux au moins rappeler l'intrigue que vous connaissez par cœur, vous bien sûr, le vieux roi Lear, avant de se retirer, a désigné deux de ses filles, Goneril et Réjeanne, pour héritières parce qu'elles lui ont exprimé leur amour. Et il a déshérité la plus jeune, Cordélia, parce qu'elle a refusé de jouer la comédie de l'affection. Mais le roi est chassé de son palais par les deux aînés, les deux ingrates, et il va devoir se réfugier chez celle qu'il avait répudiée. Cordélia, qui s'empresse de lever des troupes pour voler au secours de son père. Voilà. Avec donc Jacques Weber, je le disais dans le rôle titre, Jacques Weber, à qui Jacques a trouvé une voix d'orgue. Et apparemment, ça vous a pas plu, ça, cette voix d'orgue. J'ai pas compris pourquoi.
Mais parce que Jacques Weber, il est capable du meilleur et du pire. Et
comme nous tous, hein, comme nous tous.
plus ou moins. Et malheureusement, pour lui, il est doté effectivement d'une voix fabuleuse. Et comme beaucoup de comédiens, quand ils ont des voix fabuleuses, ce qu'on appelle des belles voix de théâtre, ils ont tendance à trop s'appuyer dessus. Et il oublie presque de jouer. Il laisse sa voix jouer pour lui.
Mais vaut mieux avoir une belle voix au théâtre qu'une voix.
Mais quelquefois, on peut se servir d'une voix moche de façon plus intelligente. C'est un piège dans lequel beaucoup de comédiens tombent. Bon. Et Weber, quand il n'est pas dirigé, et je pense que Lavaudan ne l'a pas vraiment dirigé, Lavaudan, ça fait d'ailleurs longtemps qu'on n'a pas vu de bonnes choses de lui.
Mais c'était un bon début d'émission, je trouve, là. Et on démarre bien.
Je suis désolé, mais
je me suis dit, voilà,
c'est pas le metteur en scène non plus, Jacques Lavaudan, non.
Il a fait de très belles choses, mais je pense que c'est quelqu'un de moins intéressant qu'il n'a été. C'est quelqu'un qui est un peu sur le déclin du point de vue des capacités créatrices et artistiques. Mais moi, je ne suis pas créateur. Et voilà, en revanche, il y a un bon Kent. Et un très bon Gloucester, qui Arthur lui Ray. Aurait fait un roi lire fabuleux.
Formidable, ouais.
Et Armel.
Ah, moi je suis parfaitement d'accord avec Jacques. Je pense que Georges Lavaudan, c'est la troisième fois qu'il met en scène lire. Là, il a fait lui-même l'adaptation. Elle est pas mal d'ailleurs, c'est bien, on voit bien le dessin de la pièce, il ne sacrifie pas du tout Shakespeare. Mais moi, j'ai eu un sentiment très étrange qui rejoint le sentiment de Jacques, c'est que j'avais le sentiment que Jacques Weber écoutait ce qu'on lui disait et répétait le texte. C'est-à-dire que j'ai eu le sentiment que ce grand comédien, que j'ai vu déjà lire de nombreux téléscripteurs, là je ne sais plus comment ça s'appelle,
prompteurs,
dans des spectacles, et bien là, j'ai eu le sentiment qu'il avait une oreillette et qu'il était tellement concentré sur le fait de dénoncer.
C'était Piccoli, quand il a joué le roi lire, hein. Il avait des oreillettes.
Non, mais laissons Piccoli là où il est, en paix.
Non, mais...
Laissons Piccoli en paix.
Ce que je veux dire,
paix.
C'est que ça arrive, ça.
Piccoli avait 80 ans et pas... pas 72 comme Monsieur Weber. Mais c'est vrai.
Mais il y a pas d'âge pour les oreillettes, Armel.
Il y a pas d'âge pour jouer le roi lion.
Oh bah, Depardieu, on a toujours eu. Et il
non,
était
mais
magnifique.
Depardieu, c'est un nas.
Il est magnifique
Depardieu,
avec ses
c'est
oreillettes.
Un c'est autre chose, Depardieu. Depardieu, il joue avec les oreillettes.
Il joue pas le roi lion.
Mais j'en sais rien. Peut-être que je suis en
mais
train
il serait
de.
Bien.
Peut-être que je suis en train de dire des gros mots et que je diffame Monsieur Weber. Mais enfin, il n'y a pas longtemps, je l'ai vu lire 3 prompteurs, soi-disant sur des textes, dans un théâtre privé parisien, il y a quelques mois à peine. Bon, mais je voudrais pas non plus oublier les autres acteurs, parce qu'il y a des très bons acteurs. Cordélia est formidable. Astrid Bas, qui fait la méchante, elle est formidable. On l'a dit, Martouret, remarquable. Donc, on a quand même une pièce de Shakespeare. Mais j'étais très, très, très étrangement impressionnée.
Fabienne Pascot.
Mais Jacques Weber a commandé, je crois, à Georges Lavaudan de le mettre en scène dans Lire, ce qui justifie que dans le programme et partout, Georges Lavaudan, Jacques Weber, ils sont au même niveau. Donc qu'on ait envie de jouer le roi Lire, qui est une pièce monstre comme ça, qui raconte tout, le pouvoir, la vieillesse, la famille, les pères
paternité.
Et les filles. Oui, la sexualité, enfin c'est une pièce monde, comme
chef
dit Lavaudan. Un chef-d'œuvre absolu, ça je veux bien le comprendre, mais Jacques Weber, c'est un diesel, quoi. C'est un poids lourd qui n'a aucune finesse dans le jeu. Moi, je comprends que ces filles le chassent.
Je comprends que le métier, parfois, du théâtre ait du mal à écouter cette émission, parce que franchement, quand je vois ce que vous leur balancez.
Mais non, mais il est présenté comme une tête
d'affiche. Weber, c'est un diesel.
Oui, il n'a aucune finesse. Et moi, Armel disait que c'est la troisième fois qu'effectivement que Lavaudan monte le roi Lear, il l'a monté avec Philippe Maurigenoux, qui était un comédien d'une finesse exceptionnelle. Là, on voit bien ce qu'il veut faire. On voit bien ce que veut faire Lavaudan. C'est fin, c'est délicat. Ses mises en scène s'affinent, c'est pur.
Ah ouais,
et je trouve son le dessin.
Il a d'ailleurs que
mais
c'est très
si,
pur.
Il a une idée. Il a des
il
idées.
Il n'a pas la moindre idée.
Avec je suis pas d'accord. Quelle idée il peut avoir avec cet éléphant au milieu du plateau.
Attends, non, ça va, le diesel, l'éléphant, ça va.
Bon.
Ça va.
Alors moi, je vais me retrouver dans un rôle assez paradoxal de défendre quand même ce spectacle. Moi qui pourtant ne suis pas du tout une fan de Jacques Weber non plus, hein, ça je dois dire, c'est pas quand même le comédien français qui m'époustoufle le plus, mais je trouve que c'est quand même une mise en scène, c'est une mise en scène qui est pas révolutionnaire, qui est un petit peu datée dans son côté années 80, mais je trouve qu'il y a quand même une intelligence et une élégance dans ce que fait Lavaudan, que c'est quand même son meilleur spectacle depuis quelques années. C'est vrai que ces dernières années, c'était plus tout à fait ça. Je trouve que c'est quand même son meilleur spectacle depuis longtemps, qui a encore une fois quand même une finesse justement dans l'appréhension de la pièce, et y compris dans ce qu'il fait avec Weber. Par rapport à Lire, c'est vraiment intelligent. C'est vrai que Weber n'est pas un acteur qui est dans la finesse. Eh bien, il en fait un comédien et même un bouffon, c'est-à-dire un personnage vieillissant qui n'a toujours pas compris que la vie et le théâtre, c'était pas la même chose, qui est dans son théâtre intérieur, là, qui bouffonne autour, et il a toujours pas compris que la vraie vie, c'était pas ça. Et il s'en prend plein la tête. Il s'en prend plein la tête parce qu'il a toujours pas compris ça, alors que c'est un vieil homme. Et ça, c'est quand même émouvant.
Mais tous les comédiens qui jouent le roi Lear
jouent ça. C'est parce que fait Weber consciemment. C'est presque, c'est un peu, peut-être.
Il est bête alors en plus.
Je sais pas, mais il y a quand même une intelligence dans ce que fait le metteur en scène. Après, moi personnellement, je préfère François Martouret, hein, de très loin, qui est un acteur.
Et François tout en délicatesse, il
François Martouret en Gloucester est absolument remarquable. Mais ce qui est intéressant, c'est justement le rapport entre ces deux hommes vieillissants, l'un qui n'est pas subtil, c'est Lear, l'autre qui est subtil, c'est Gloucester, mais tous les deux, finalement, sont totalement dans l'échec, y compris celui qui est plus subtil que l'autre.
N'empêche
et ça, c'est très émouvant.
Weber
c'est très
dirigé,
émouvant.
Il peut être très bien.
Le
il ne
roi
l'est pas.
Lear de Shakespeare, mise en scène par Georges Lavaudan, c'est au théâtre de la Porte Saint-Martin. Vous avez jusqu'au 28 novembre, avant que ce roi parte en tournée à Vesoul, Aix, Villeurbanne, etc. Au studio Marigny, et jusqu'au 30 décembre, un acteur de cinéma fait ses débuts sur les planches. C'est Richard Anconina, qu'on ne voit plus guère à l'écran depuis les deux films préférés de Nerson, que sont Camping 2 et La vérité si je mens 3. Coupable où il s'illustre aujourd'hui sur scène, c'est l'adaptation par Camilla Barnes et Bertrand de Grémont de l'excellent film dont vous vous souvenez peut-être du Danois Gustav Möller, The Guilty, qui était sorti en 2018. On y entendait, plutôt qu'on y voyait, un policier affecté aux appels d'urgence répondre à celui très vite interrompu d'une femme qu'on était en train de kidnapper. Et avec son seul téléphone, il se lançait alors dans une course contre la montre pour tenter de sauver cette femme. Même dispositif dans la pièce, qui est transportée bien sûr du Danemark à la France, est mise en scène par Jérémy Lippmann et où Anconina, arrivé à son bureau, à sa console, mène son enquête au téléphone et où le suspense est surtout conduit par la bande-son Fabienne Darge.
Je suis désolée, je n'ai pas vu, j'ai confondu avec un autre spectacle dont je pensais qu'il était au programme.
Alors Fabienne Pascoe.
Alors moi, je suis désolée parce qu'on va croire que je n'aime plus aller au théâtre alors que j'adore ça et que c'est ma vie. Je n'ai pas aimé ce spectacle. Franchement, c'est le minimum vital par rapport au film. L'adaptation...
Le film était
exceptionnel.
Exceptionnel. Angoissant.
Très angoissant ouais. Et on le regardait, il y avait un suspense.
Formellement très juste. Hein,
voilà, tout à fait. Et là, l'adaptation qu'on en a faite est un peu basique, ordinaire, avec ce personnage de policière qui arrive, on ne sait pas trop pourquoi, proposer un café. C'est totalement anecdotique, mais aurait valu un huis clos plein de frayeurs et de frissons. Je trouve qu'Anconina, qui est au demeurant un acteur que j'aime beaucoup, avec cette petite déchirure qu'on sent en lui, et là le personnage est effectivement aussi blessé parce que on l'accuse un petit peu d'avoir fait une bavure, donc il est... Ah ben non, mais je dis pas, c'est tout petit ça Jérôme, je ne révèle pas le suspense, la fin, mais... Il fait la blague, quoi. C'est bien. C'est propre, mais c'est pas. Ça mérite pas le prix d'une place dans le théâtre privé aujourd'hui, pour moi. Hein. C'est.
Il faut le rappeler toujours des prix assez élevés
des
dans le théâtre privé.
Des prix assez élevés. Donc je trouve que Anconina, il fait le job, mais sans plus.
Jacques,
moi, j'avais pas vu le film. quand j'ai vu le spectacle. Je, contrairement à vous, Anconina n'est pas un acteur dont je raffole.
Oh, vous m'avez parlé de camping pendant des semaines et des semaines. C'était insupportable.
Moi, contrairement à vous, j'ai été scotché par le spectacle. Le suspense a marché, mais j'étais vraiment terrifié dans mon fauteuil. Anconina, donc, jamais vu au théâtre. Je trouve qu'il se débrouille de façon merveilleuse, et pour quelque chose d'extrêmement difficile qui est de jouer avec une bande-son. Et à aucun moment, je n'ai eu la sensation justement le moindre décalage, je n'ai senti que les gens qui lui répondaient n'étaient pas là et que tout était fait à l'avance, que c'était fabriqué. Non, vraiment, je trouve que c'est une prouesse. Alors, au-delà de la prouesse, moi, il m'a profondément ému et j'ai passé une excellente soirée.
Il faut dire que les théâtres ne sont pas tous remplis pour l'instant, mais que le Marigny est rempli pour aller voir Coupable, oui, comme il est rempli.
Et la salle, quand j'y étais, était vraiment enthousiaste. Les gens se sont levés. Oui, oui. C'était pas par.
Oui, moi aussi, le soir, j'y étais. Non, vraiment. Mais c'est vrai que voilà, ça fait partie des quelques spectacles avec celui de Vanessa Paradis. Oui.
Quand il y a des acteurs de cinéma. Apparemment, ça provoque quelque chose.
Mais enfin, il magnifie pas son rôle. Il lui donne même pas la dimension que s'est lui donné l'acteur danois dans le film.
Écoutez, je ne me compare pas avec l'acteur danois. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai été ému et capté. Et puis j'avais peur. J'en tremblais sur mon fauteuil. Non, vraiment. Oh. Non, vraiment. J'ai eu.
Vous avez tremblé sur votre fauteuil,
oui,
Jacques.
Oui, absolument. Absolument. J'ai eu vraiment très peur.
J'aurais voulu voir ça. Armel.
Je comprends le point de vue de Fabienne Pascaud parce que quand j'ai vu le spectacle, moi aussi, j'ai été un petit peu déçue parce que je l'ai trouvé un petit peu terne.
Vous aviez vu le film avant ou pas ?
Bien sûr, j'avais un souvenir du film très fort. Et puis Anconina, c'est un acteur que j'aime beaucoup, qui est sensible, qui est très bien. Et je trouvais, mais j'avoue que j'ai vu ce spectacle au tout début. Et je dois bien admettre que tous les gens qui le voient sont bouleversés, même le jour où j'y étais. D'ailleurs, j'étais un dimanche après-midi, les gens se sont levés.
Bah, pourquoi
je
ne lèveras pas le dimanche après-midi?
Ils se lèvent tout le temps. Comment? Ils se lèvent tout le temps, les gens. Vous n'avez pas remarqué?
Maintenant, c'est à la télé, boum. Mais bon. Non. Oh. Et je dois donc avouer que j'aurais pas parié 3 places de théâtre privé sur le devenir de cette pièce qui se joue maintenant depuis plus de 2 mois.
Guichet fermé.
Et complètement demandée par le public. Et voilà. Et donc je pense que ça a quand même un petit peu évolué. Peut-être que je l'ai vu un jour où il était fatigué, où il avait peur.
Moi, ce que je trouve formidable, c'est
Richard Anconina.
Pourquoi peur, non ?
Moi, je trouve que pour quelqu'un qui n'a jamais fait de théâtre, jamais.
Il était monté sur un plateau quand même entre deux grands.
Mais enfin, là, il est seul.
Justement, ce que je trouve formidable, c'est qu'il ne cherche pas à il n'est pas en état de preuve.
Du coup,
il n'en fait pas trop.
Il fait d'une très grande sobriété.
Une très grande retenue. Non, c'est très bien mis en scène par Jérémy Lipman.
Ça marche. Il est bien le.
La mise en scène est formidable. Formidable.
Il n'y en a pas.
C'est qu'apparemment, vous ne savez pas ce que c'est qu'une mise en scène.
Ah, bah non, alors je ne sais pas, Jacques. Vous me donnez des questions particulières.
Ben oui, si la direction d'acteur pour vous n'est rien, c'est que vous n'avez pas compris grand-chose.
Mais je dis que moi, je l'ai trouvé minimaliste, la direction d'acteur. Et quand on a un type
minimaliste, quand on sait diriger.
Pendant une heure et demie,
je l'ai vu
juste pour aller boire du café.
Non, mais s'il vous plaît. S'il vous plaît, tout va bien. Tout va bien.
Il faut faire des effets.
Il n'y a pas d'enjeu, hein. Là, ce n'est pas un débat sur la pêche entre la France et l'Angleterre. Je vous en supplie. Coupable, c'est au Studio Marigny et vous avez jusqu'au 30 décembre, mais les places sont chères, mais elles sont rares aussi. Le même Jérémy Lipman met en scène au Bouffe Parisien 88 fois l'infini d'Isabelle Le Nouvel avec Nils Arestrup. Et François Berléand, ils sont ici deux demi-frères brouillés depuis 13 ans en raison d'une vieille histoire de rivalité amoureuse. Hélène était la femme de l'un et puis de l'autre. Et voici que l'un, c'est Philippe, donc François Berléand, qui est artisan relieur, rend visite à l'autre, c'est Andrew, qui est joué par Arestrup, qui est un pianiste virtuose et mondialement célèbre, mais qui a renoncé au concert. Et alors Philippe, il débarque avec une vieille valise qui appartenait à leur père, une valise vous l'avez deviné, qui est rempli de très lourds secrets de famille. Quant au titre, vous l'aviez aussi également deviné, ce sont les 88 touches du clavier, 52 blanches et 36 noires. Un spectacle qui va se jouer jusqu'au 2 janvier et que, là encore, notre ami Fabienne Darche n'a pas vu.
Oui, je me suis un peu mélangé les pinceaux dans le programme.
Là, c'est plus les pinceaux, là, c'est tout. Hein, vous avez mélangé, si vous permettez.
À la place, je suis allée voir un très mauvais spectacle au Théâtre du Vieux Colombier. Mais...
Un très mauvais en plus ?
Oui.
C'est bon. Bien fait.
Voilà, c'est ça, j'ai été punie.
Jacques.
J'ai pas bien fait mes devoirs, j'ai été
Berléand et Aristrup dans 88 fois l'infini.
Je suis désolé, mais à nouveau, je vais pas être positif. La pièce est très, 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 très bête.
Moi, je crois que je vais arrêter de faire des émissions théâtre.
Non, non.
Ben, je suis désolé. Voilà, Isabelle Le Nouvel est une charmante comédienne qui s'est mise à écrire des pièces. C'est pas, à mon avis, ce qu'elle fait de mieux. Il se trouve, c'est pas divulgué, c'est quand même connu qu'elle est la femme de Niels Harestrup. Et Niels Harestrup les joue, ses pièces. Et
vous dites Harestrup.
Ça peut très bien se comprendre. Harestrup, si vous préférez. Enfin, je ne sais pas. Et malheureusement, voilà, c'est une pièce, c'est de la psychologie à trois sous la bouteille. Enfin, c'est le type a un blocage. Tout à coup, on lui dit quelque chose sur son identité. Hop, ça débloque tout. Il se remet au piano. Enfin, c'est grotesque.
On n'est pas à ce point caricatural.
Ah, c'est exactement ce qui se passe. Effectivement, toute la pièce consiste à découvrir un secret de famille, puis tout à coup, hop, c'est terminé. Non, c'est vraiment pas à voir. C'est dommage parce que ce sont de grands acteurs, c'est vrai, mais c'est tout.
Ben oui, sauf que ce que vous dites là, c'est quand même, ça ajoute à pas mal de déceptions, moi, et le théâtre va pas très bien.
Mais oui, mais je peux pas conseiller.
Moi, je comprends pas que le roi de la mise en scène, Jérémy Lippmann, que vous trouviez si exceptionnel dans Coupable, ait raté son coup pour un grand metteur en scène dans 88 fois l'infini.
Eh bien, je vais vous apprendre quelque chose, c'est qu'on ne réussit pas toujours.
Merci,
alors,
Jacques.
On va donner la parole à Armelle.
Alors, moi, je ne suis pas du tout aussi sévère que Jacques Nerson.
Vous
j'ai
avez
passé
une
très bonne soirée parce que c'est passionnant de voir deux acteurs face à face. Et alors, pour dire la vérité, puisqu'ils l'ont dit, Niels Harestrup l'a raconté, Isabelle Le Nouvel avait écrit la pièce pour Alain Delon et Niels Harestrup. Alain Delon devait faire le pianiste et Niels Harestrup, le rôle que joue Berléand, c'est-à-dire l'artisan relieur.
Oui.
Alors évidemment, ça aurait dépoté avec Alain Delon. Mais bon, il a hésité, puis il a dit non, il a eu peur, il n'a pas voulu... Parce que je comprends que...
Parce que Jacques lui a dit que la pièce était belle.
Non, je comprends que... Mais on voit mieux ce que ça aurait pu faire, évidemment.
Pourtant, c'est pas du tout les mêmes emplois. Hein.
Oui, mais c'est un acteur de long. On peut dire ce qu'on veut, c'est un grand acteur.
Sûr.
Et même
mais
au
c'est
théâtre...
c'est pas les mêmes emplois, je veux dire...
Ouais. Je l'ai souvent trouvé très intéressant. Donc, il y a ça. Donc, Niels Harestrup a pris le rôle du pianiste. Et puis, Berléand, ils jouent pour la première fois ensemble... Et le soir où je les ai vus, je pense qu'il y a un Berléand, mais c'est exactement comme dans la pièce, un petit peu intimidé par cette espèce de féroce nature qui est.
Il est tout aussi féroce, Berléand. Je crois qu'il n'est pas intimidé du tout. Mais...
Oh, il se fait bouffer par Harestrup quand même.
Bah évidemment, Jacques, il a tourné des films avec Niels Harestrup, alors il connaît intimement. Ben oui! En
pas
petit
des
short,
films,
d'ailleurs,
un
en
film,
petite culotte.
Quoi?
Ils étaient en petite culotte.
En Bermuda.
Alors là, il y a la révélation ce soir.
C'est quoi cette histoire? C'est quoi?
C'est le goûter de Nice.
Vous avez tourné avec Harestrup?
Non, j'ai un rôle minuscule, mais oui.
Ah ben, je l'ai jamais oublié.
On jouait.
Quel film?
Ça s'appelle le goûter chez
Nils. Le goûter de Nils ou chez
Le goûter chez Nils, c'est un film de Didier Martini.
Le mari de Yasmina Reza.
Voilà, Yasmina jouait dedans et elle avait co-écrit le scénario. Et on était plusieurs, il y avait Patrice Kerbrett, hein, on jouait des enfants. C'était un goûter d'enfant.
Vous jouiez un enfant?
Oui, mais ça. Adieu. Alors que je ne l'étais plus.
Cette émission est passionnante. Hein.
Faut savoir pourquoi.
Non, mais c'est vous qui dites ça.
Grand, féroce. Non, mais parce que j'ai bien vu que. Quand il me dit mais non, mais Niels n'est pas du tout comme ça, il pense à se goûter.
Bon, attendez, on va avancer
non.
un peu.
Moi, je ne déconseille pas du tout cette pièce. Je la trouve, elle fonctionne. J'aime beaucoup Berléand parce qu'il a une finesse et puis Harestrup, il est étonnant, quoi. Toujours.
Fabienne Pascaud.
Oui, moi je trouve que voir deux septuagénaires encore se disputer pour leur père, c'est un petit peu affligeant, avoir encore des problèmes de fils et de papa.
Surtout qu'il n'y a pas tellement de suspense. Hein, quand,
non, non,
c'est,
non.
Ce mais, qu'on va apprendre n'est pas...
Exactement, mais passer ça, moi j'aime beaucoup les duos d'acteurs, les affrontements, et c'est vrai que Nils Arestrup, lui il aurait pu jouer Lear aussi, mais il est tout à fait prodigieux, parce qu'on ne sait pas ce qu'il va faire, on ne sait pas comment il va réagir, c'est une sorte de lion qui est prêt à bondir, il se tait, il sait manier le silence, le tempo, et il n'a pas, pour moi, le partenaire à sa mesure. C'est plutôt un comique flegmatique, Berléand, je ne le trouve pas du tout si féroce que ça, il est dans le charme, c'est un pauvre type vieillissant. Oui, enfin, ça, je ne le connais pas intimement
non,
comme vous.
Non, je parle sur le plateau.
Mais,
sur le plateau,
sur mais le plateau. Moi, je trouve que là où le spectacle pêche, et encore une fois, on ne passe pas une mauvaise soirée, mais le spectacle pêche, parce qu'Arestrup n'a pas un partenaire à sa mesure, quoi.
88 fois l'infini, où là on peut regretter aussi quand même le prix des places, hein. Tout ça est un peu excessif, surtout en période de crise. C'est donc au Bouffe Parisien avec Arestrup et Berléand, et c'est une pièce signée Isabelle Le Nouvel, Cabaret de l'Exil. Ça vous l'avez vu au moins, Fabienne?
Ah, bah oui.
D'Arge. Vous n'êtes pas trompée là, non?
J'ai même vu deux fois pour le coup.
Le nouveau spectacle de Bartabas au théâtre Zingaro d'Aubervilliers, après Ex Anima, sous-titré, je vous le rappelle, Ultime Création. Bartabas revient à ses premières amours, à ses cabarets. Il y en a eu trois. Je les avais tous vus à l'époque. Hein,
dans les années 80.
Absolument,
oui.
Dont le premier avait été créé en 1984. C'est donc il y a 37 ans. Et qui fut d'ailleurs ce cabaret, l'acte de fondation du théâtre équestre Zingaro. 37 ans plus tard, le magnifique frison Zingaro n'est plus, vous le savez. Mais on retrouve les oies, les ânes, il y a même un mulet, les cloches, les orgues, et puis le corbillard rempli de bouteilles de vin chaud sur lequel se sert, toujours se précipite Jacques Nerson, et que des serveurs maladroits servent aux spectateurs qui sont assis autour de petites tables rondes. Le thème de ce cabaret de l'exil, c'est la culture yiddish avec un orchestre qui joue la musique klezmer des juifs ashkénazes et le comédien Raphaël Goldwasser qui lit des pages d'Isaac Bashevis Singer. Quant à la piste circulaire, eh bien on y voit des voltigeuses, des voltigeurs, des amazones volantes qu'on croirait sorties d'un plafond de Chagall. De grandes bougies qui marchent, ça c'est un tableau que je trouve très beau. Un rabbin dresseur, une maquette de Shettle qui brûle. Un Christ en croix représenté par une cavalière au sein nu. C'est la première fois qu'on voit une cavalière au sein nu à Aubervilliers. Et puis Bartabas, qui sous cette tête de corbeau dont parlait Fabienne Darge, fait passager son cheval géant Tsar, avec lequel il avait fait ce dernier et très émouvant
entretien
spectacle.
Entretien silencieux.
Ce cabaret est évidemment plus mélancolique et moins provocateur que les premiers. Est-ce qu'il vous a séduit? C'est, je l'ai dit, au Fort d'Aubervilliers, et ce sera jusqu'en mars 2022. Fabienne Darge, enfin un spectacle à la vue.
Oui, que j'ai vu et que j'ai adoré. Alors là, moi j'adore ce retour de Bartabas au cabaret, je trouve que ça lui réussit totalement. J'avais pas toujours été très cliente ces dernières années des spectacles, comment dire, assez mystiques. Voilà, pour moi c'était pas
les spectacles.
Là, c'est aussi mystique.
Oui, le dernier,
ni Ex Anima.
Oui, d'une certaine façon, celui-ci est mystique, mais je trouve que ce retour aux origines du cabaret enveloppe, en tout cas, du point de vue de la forme, il y a quelque chose de très joyeux, très convivial. Et après, il y a aussi quelque chose de très profond, je trouve. C'est quand même un voyage, effectivement, dans cette culture du Yiddish langue, dans la musique klezmer, un ensemble de musique klezmer qui est absolument merveilleux. Et c'est vrai qu'il arrive comme ça à faire tout un voyage dans cet univers d'Europe de l'Est, qui est un univers à la fois disparu et qui en même temps existe toujours du point de vue culturel, qui est vraiment très beau. Il y a notamment un magnifique discours d'Isaac Bashevis Singer qui traverse tout le spectacle et qui est dit par ce fameux comédien que je ne connaissais pas et que j'ai trouvé remarquable, et qui est vraiment une réflexion sur les fantômes absolument magnifique, bouleversante. Quoi. Je trouve que... voilà, c'est...
À la fin du soir où j'y étais, d'ailleurs, les gens ne voulaient pas partir, ils restaient assis.
C'est ça. Les gens veulent rester.
Ils voulaient rester. Oui. Alors ça joue beaucoup... évidemment en faveur d'une convivialité qu'on avait un peu perdue ces derniers temps en raison du Covid.
Mais c'est pas seulement un spectacle décoratif.
Armel.
Oh, c'est un magnifique travail, un magnifique spectacle. Les cavaliers, d'abord, ils sont tous extraordinaires. Les chevaux sont tous magnifiques. Il nous fait rire, comme d'habitude, avec son baudet, sa mule et son petit âne. Mais ce qui est superbe chez Bartabas, c'est que c'est quelqu'un qui pense, quoi. C'est un artiste intuitif, mais c'est aussi quelqu'un qui voit les choses. Et il y a dans ce spectacle quelque chose qui va même au-delà de la mélancolie. Moi, je suis sortie de là, après avoir beaucoup ri, beaucoup été éblouie, époustouflée par les prouesses, la beauté aussi. Ils sont tous beaux, ces cavaliers et ces cavalières, parce que lui, il n'a pas attendu les dictats pour avoir beaucoup de cavalières dans sa troupe. Et au-delà de tout ça, alors évidemment, c'est la culture yiddish, la langue yiddish, tout ça, mais il y a quelque chose qui est presque... Je suis sortie de là en disant, mais... C'est comme s'ils voyaient la guerre venir, comme s'ils voyaient le monde menacé. Ah oui, moi j'ai ressenti ça. J'ai ressenti que la Chine allait s'abattre sur Formose. Mais vraiment.
À mon avis, vous avez un peu abusé du vin non, chaud. Non, parce que je vois aucune menace.
Je crois qu'il y a l'impression de guerre. Que le théâtre est menacé.
Je trouve qu'il y a une gravité encore plus forte que d'habitude. Parce qu'il a toujours été très sarcastique, drôle, féroce. Et il y a toujours eu de la mélancolie. Mais là, il y a quelque chose de... D'autres.
Jacques.
Je m'en veux un peu parce que je peux pas, une fois de plus, je peux pas participer à ce concert de louanges. J'en suis vraiment navré parce que j'aime beaucoup Bartabas
et
j'aime
beaucoup.
Mais je trouve que là, cette fois-ci, le cœur n'y est pas vraiment allé. C'est peut-être du coup cette impression qu'a eu Armel de quelque chose d'une menace. C'est vrai, moi, je crois pas qu'il y ait une menace quelconque, mais je crois que oui, le cœur n'y est plus. D'ailleurs, vous savez, sur l'affiche, il s'est amusé, il a fait un gag, il met place aux vieux.
Oui.
C'est-à-dire que je crois que le spectacle contient beaucoup de choses déjà vues et que c'est pas un Bartabas en grande forme. Mais je vais m'arrêter là parce que je ne voudrais pas casser votre enthousiasme.
Il a fait rentrer plein de jeunes, justement.
Oui, mais il y a beaucoup de vieux aussi.
Il y a un
mélange des deux.
Vous n'avez rien compris.
Comme d'habitude.
Vous n'avez rien compris. Mais franchement, je ne sais pas pourquoi je vous ai donné la parole, d'ailleurs.
Non, moi, où je rejoins un tout petit peu Armel, c'est qu'il y a... j'ai beaucoup aimé le spectacle, c'est toujours magnifique, c'est des images dans lesquelles on aime se plonger.
À commencer par
ce
plan d'ouverture, exactement. Avec la forge du maréchal Ferrand.
Ouais, exactement, c'est superbe. Mais il y a moi, je trouve que c'est un geste politique courageux, parce qu'on reparle de la renaissance de l'antisémitisme en France. Enfin, renaissance, ça n'a jamais vraiment complètement cessé non plus. Et prendre comme thème la culture yiddish, je trouve que de la part de Bartabas, c'est bien, c'est fort. Il n'a jamais fait des spectacles politiquement engagés comme ça. Et pour moi, ça veut dire quelque chose. Prendre le parti des exilés, aller revisiter, comme il va le faire plus tard, puisqu'il en annonce trois, des cultures lointaines dont on ne tient pas forcément compte, qu'on méprise aujourd'hui. Je trouve qu'il a acquis une générosité, une conscience qui est peut-être de cette gravité dont parlait Armel et que j'ai trouvé un peu tragique. Parce que quand on compare...
C'est une fête, ce spectacle. C'est pas, vous en parlez
bien
comme
sûr.
C'est une fête grave. Et quand on compare au Bartabas dans les années 80 qui avait 20 kilos de plus, et là qu'on voit cette esthète mince avec sa tête de corbeau comme un prêtre, on voit que ça a changé quand même. C'est plus le même.
Bien sûr,
c'est une fête quand même aussi très nostalgique.
Mais le monde a changé, le monde s'est noirci.
C'est donc Cabaret de l'Exil, c'est à Aubervilliers, bien sûr, et c'est le nouveau spectacle de Bartabas, et allez-y, d'abord parce que c'est très beau.
Son livre est sorti en folio.
Absolument. Et il y a beaucoup, beaucoup de monde, donc il faut réserver ses places.
Il faudrait préciser quelque chose pour les spectateurs, c'est qu'il n'y a plus de, à cause des travaux de la piscine arrêtée, il n'y a plus de parking. Donc, si vous pouvez, faut y aller en métro. Non, et autrement, vous vous garez à Porte de la Villette. Non, mais c'est vrai, c'est important. Et vous prenez deux stations de métro. Mais je te
alors,
jure,
si
Jérôme,
vous voulez, sinon,
important.
Vous pouvez aussi prendre. Il y a un bus qui vous amènera.
Mais non, mais
à Porte de Pantin. De là, vous pouvez prendre aussi un. Éventuellement à notre ligne.
Non, mais sans rire, c'est scandaleux qu'un théâtre comme ça qui attire un monde fou avec des enfants souvent n'ait plus de parking.
Mais il y a une pizzeria qui est pas loin, qui est très
non,
sympa.
Mais... Moi, peut. Je suis très sérieuse en disant ça, Jérôme.
Mais je Armelle sais bien, pense au service, elle a
je
raison.
Je sais bien, elle a raison, elle a toujours raison. C'est jusqu'en mars.
Ouais,
donc
c'est
vraiment,
bien.
Vous
on a le temps
avez
d'y retourner.
Le temps. Le bruit des loups, on termine avec ce spectacle d'Étienne Saglio au Théâtre du Rond-Point. C'est cet acteur jongleur magicien qui est passé par le Centre National des Arts du Cirque de Châlons avant de créer sa propre compagnie. Monstre avec laquelle il a créé Le Soir des Monstres, Le Silence du Monde, Les Limbes. Et dans ce nouveau spectacle, il se balade sur l'air de Promenons-nous dans les bois, dans une forêt magique, peuplée de loups, de géants, forêt d'enfance, qui prend aussi d'ailleurs la forme du grand damier d'Alice au Pays des Merveilles, où courent des souris et des furets. Visuellement, c'est très beau. Il y aura une grande tournée que je vous indiquerai juste après que vous aurez parlé, et relativement vite, parce que il nous reste peu de temps. Jacques. Ah
ben, voilà le spectacle que
je recommande.
Ne
l'opposez pas au précédent.
Je ne l'oppose voilà pas, mais je trouve que c'est un spectacle vraiment, comme le nom l'indique, c'est magique. C'est-à-dire que j'ai vu un rêve devant moi, je suis incapable de discerner ce qui est vrai et ce qui est faux. C'est superbe. C'est vraiment un enchantement extraordinaire. On retrouve des joies d'enfance quand on dévorait des livres avec des belles illustrations.
Quand vous étiez en Bermuda, quand vous...
quand j'étais en Bermuda, ça. Et, non, c'est admirable. C'est un très, très beau spectacle. Et on peut emmener les enfants aussi.
Fabienne Darche.
Alors moi, j'ai été un petit peu déçue quand même. C'est une heure qui passe de manière agréable. Hein, et effectivement, on peut emmener les enfants. Mais par rapport aux deux spectacles précédents qu'il avait fait, Étienne Saglio, qui avait quand même été surnommé le petit prince de la magie nouvelle, qui était quand même arrivé dans ce mélange de théâtre et de magie nouvelle avec quelque chose d'extraordinairement inventif, je trouve que ce troisième spectacle est quand même en dessous. Il y a moins d'inventions, il y a surtout moins de...
Oh, comment peux-tu dire ça ?
Ben, si, je le dis. Et je trouve que surtout théâtralement, parce que ce qu'il a de fort par rapport à ses comparses de la magie nouvelle, c'est qu'il a quand même un vrai sens théâtral. C'est un peu une sorte de jeune Hamlet, ce garçon, il a comme ça. Et là, théâtralement, je trouve que c'est ténu, voilà. C'est un spectacle agréable.
C'est quand même un conteur. Hein,
c'est un peu ténu, voilà. Mais je vais pas...
Pas seulement un illusionniste.
L'autre c'est bien
Fabienne
mieux que beaucoup
Pascot,
d'autres choses.
S'il vous plaît.
L'autre Fabienne fera un mélange des deux, des deux intervenants. Je trouve que c'est magnifique esthétiquement. On se perd dans une forêt d'enfance, une forêt magique, pleine de cauchemars et de rêves à la fois. Mais comme Fabienne, je trouve que la dramaturgie est un peu ténue. Il y a des personnages dont on ne sait pas très bien ce qu'ils représentent. Est-ce que c'est un ogre, cet immense acteur ou est-ce que c'est l'esprit de la forêt? Est-ce que...
Bon, c'est tout ça à la fois, c'est tout ce qu'on veut.
Oui, mais on ne comprend pas bien ce que ça veut dire, finalement.
Mais on a forcément besoin de comprendre.
Dans cette forêt de songes, mais on a envie de savoir, du comprendre.
Mais dans les rêves, on ne sait pas toujours de quoi on rêve.
Alors,
exactement,
oui,
je suis complètement d'accord avec Jacques, je vais aller vite. C'est miraculeux, c'est magique. On ne sait pas ce qu'on voit, on ne sait pas comment c'est fabriqué. C'est exactement comme le dit Jacques. On voit des animaux, mais sont-ils vrais, sont-ils pas vrais? On voit des apparitions, on voit un grand personnage et puis le même en tout petit. On voit ce grand géant, on voit des rêves, on a peur. C'est extraordinaire et peu importe que ça ne raconte pas une histoire complètement fermée. C'est tellement drôle, en plus l'ouverture est très très drôle. Avant qu'on arrive dans la forêt, c'est extraordinaire.
Le bruit
des loups, c'est miraculeux,
ce
spectacle.
C'est Étienne Saglio et c'est au Théâtre du Rond-Point jusqu'au 20 novembre. Ce sera en décembre à Maubeuge et à Genève, en janvier à Nice et à Fribourg, en février à Angers et Châteauroux, puis Calais, Clermont, Strasbourg, Rennes et d'autres villes encore. Voilà, le temps est venu des conseils. On commence avec Armelle.
Alors, un spectacle qui s'intitule Colère Noire, fait par un jeune homme que j'aime beaucoup, qui s'appelle Gabriel Dufay, qui est à la fois comédien, très fin, très sensible, très lettré, très... Il a fait des spectacles sur des poètes, sur des grands textes. Et là, il est allé chercher des textes de Brigitte Fontaine, la Brigitte Fontaine, la chanteuse. Et c'est d'une beauté. Alors, j'ai vu ça à Créteil il y a quelques semaines. Ça va être au Plateau Sauvage du 29 novembre au 11 décembre. Et vraiment, je conseille à tout le monde, parce que d'abord, on entend cette poésie pure et sombre et drôle de Brigitte Fontaine, et puis cet acteur extraordinaire qui est Gabriel Dufay.
Et vous rappelez la ligne pour aller à Créteil ? Non, il n'y a pas de...
C'est au Plateau Sauvage, c'est dans Paris.
Le conseil de Fabienne Darge.
Alors, deux conseils rapides. The Notebook, d'après Agota Christophe, par une compagnie anglaise formidable, qui s'appelle Forced Entertainment, qui a droit à tout un portrait dans le cadre du Festival d'automne. Donc, il va rester quelques soirs pour voir ce spectacle. Et il y aura ensuite deux performances à Beaubourg de ces Anglais, donc qui font un théâtre qui ne ressemble qu'à eux. C'est à la fois très anglais et très singulier. Et très rapidement, pour appuyer le conseil donné au masque littéraire par Olivia de Lamberterie, le livre de Denis Podalydès, Les Nuits d'amour sont transparentes.
Merveilleux.
Merveilleux livre.
Je laisse la parole, quant à moi, aux auditeurs qui nous ont envoyé des conseils. Laurent Bernard conseille Buster, comprenez Buster Keaton, au théâtre de Montreuil, une projection de la croisière du navigateur commentée par Mathieu Bauer. Il paraît que c'est très bien. François Artigas nous a écrit, lui, il préconise les Sœurs Tatin au théâtre de la Contrescarpe. Et Je m'appelle F au théâtre d'Aleph. Deux excellentes pièces servies par de remarquables jeunes comédiennes et comédiens. Et enfin, Patrice Hébrard se promet de courir voir l'adaptation des Misérables au théâtre de la Tempête, parce que, nous écrit-il, je connais une grande partie de la troupe pour assister régulièrement au spectacle du Festival d'Anjou, et parce que je n'ai que des bons souvenirs de mes passages au théâtre de la Tempête. Vive le théâtre et vive le masque, nous dit Patrice Hébrard.
Oui, c'est Lazare Herson-Macarel qui fait la mise en scène des Misérables.
Le conseil de Fabienne Pascot.
Alors moi, ce sera deux spectacles très rapidement. D'abord, le spectacle de Salomé Lelouch, ce qu'elle a écrit pour Pierre Arditi et Evelyne Bouix. Fallait pas le dire, que je trouve réjouissant, drôle, fin, enjoué. Elle s'est amusée à regarder sa mère et son beau-père, dont elle se moque comme un couple de bobos du 6e arrondissement, et tout y passe, et c'est drôle.
C'est un pléonasme,
ils se moquent d'eux-mêmes. Moi, j'ai trouvé ça vraiment charmant et enjoué.
C'est drôle.
Donc,
ouais.
Une comédie, oui, vraiment, vraiment bien faite. Et puis alors, côté actrice, elle est admirée, Catherine Yeagel dans Les règles du savoir-vivre à la Porte Saint-Martin, où elle est vraiment prodigieuse. C'est une pièce de Lagarce où elle refait les règles de la bienséance et...
Enfin, c'est plutôt Jean-Luc Lagarce qui refait
c'est Jean-Luc Lagarce, mais elle interprète ça avec une rosserie. Elle est merveilleuse.
Et le conseil de Jacques ?
Eh bien, c'est un spectacle qui ne se donne qu'un jour par semaine, malheureusement, mais j'espère qu'il va connaître plus tard une carrière plus ample. Et ça s'appelle « Mauvaise petite fille blonde ». C'est une pièce de Pierre Note qu'il a mis en scène lui-même avec un comédien dont malheureusement je retrouve pas le nom, j'ai égaré moi le programme. Et c'est un comédien brésilien, je crois, qui est remarquable. Et je conseille cette pièce qui raconte une erreur judiciaire, une petite fille qui, sans le vouloir, a fait voltiger la sébille d'une mendiante et on la traite de méchante à cause de ça. Et du coup, elle va devenir méchante. C'est très violent.
C'est un peu ce qui vous est arrivé, vous.
Voilà. Quand j'étais en Bermuda.
Oui. C'est pour ça que vous êtes devenu méchant.
Voilà.
Et c'est où ça, Jacques ?
Au théâtre de La Flèche.
Tous ces conseils, vous les retrouvez bien sûr sur le site du Masque et la Plume, franceinter.fr. Merci beaucoup, Fabienne Pascot, Fabienne Darge, Armel Elio. Et Jacques Nerson pour cette émission qui était, comme chaque semaine, présentée par Jérôme Garcin avec la collaboration de Lisiane Selam. Et ce soir à la technique au théâtre de l'Alliance française à la technique, il y avait, et je les remercie, Bruno Mourlan, Guillaume Leplège ainsi que le fidèle Tar Bouklifa. La réalisation était signée Xavier Pestugia. Notez bien que le prochain enregistrement du Masque Eh bien, ça sera le jeudi 18 novembre à 19h au Théâtre de l'Alliance Française, 101 boulevard Raspail, dans le 6e à Paris, pour deux émissions, l'une consacrée à la littérature, l'autre au cinéma. Dans une semaine, on parlera de films à dimanche prochain sur France Inter, évidemment.